Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanret. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez actuellement n'est pas celle d'Yves, inimitable, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Yves, je sais que tu nous écoutes, on pense à toi et on espère te revoir très bientôt. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons David Christoffel, poète, musicien, musicologue, chercheur, enseignant, mais aussi et surtout producteur et animateur de l'émission Métaclassique. Bonjour David.
Bonjour Frédéric.
Alors, Métaclassique, ça fait combien d'années que ça existe ?
Ça va avoir 7 ans tout début 2026, puisque c'est apparu tout début 2019.
En 7 ans d'existence, vous avez reçu combien d'invités ?
Je crois un peu plus de 600, puisqu'il y a 1, 2, 3, parfois 4, 5 invités par émission.
Et alors, c'est diffusé sur combien de radios ?
Autour d'une centaine, ça évolue d'une saison à l'autre. Il y en a quelques-unes qui sont archi fidèles. Il y a pas mal dans le réseau Radio Campus de radios qui diffusent Métaclassique. Mais il y a aussi beaucoup de radios qui sont vraiment ancrées dans les territoires, comme on dit, et pour qui ça devient comme la seule offre liée à la musique classique et au-delà, puisque c'est la punchline de l'émission.
Alors, combien d'auditeurs, combien de podcasts téléchargés cette émission ?
Alors ça, je me fais une règle de ne pas regarder les chiffres. Par hygiène mentale, je ne regarde ni les chiffres qu'il peut y avoir sur le site, puisque c'est aussi le site metaclassique.com où toutes les émissions sont accessibles. Et puis, justement, comme la distribution est volontiers rhizomatique, je ne vais pas m'amuser à compter les audiences de chacune des radios pour faire finalement l'audience de l'émission qu'on me demande de temps en temps, mais sur laquelle je sèche avec plaisir.
Je crois que ça approche quand même le million de
probablement.
Téléchargements et d'écoutes. Si je me permets d'évoquer des chiffres, parce que ça ne nous intéresse pas foncièrement les chiffres en soi, mais si je me permets de le rappeler, c'est qu'en fait vous êtes totalement indépendant.
Ouais.
C'est ça, c'est là où ça devient intéressant de parler des chiffres.
Oui.
C'est comment vous arrivez à imposer une émission exigeante sur un réseau très étendu. Alors on va faire un petit détour biographique si vous le voulez bien. Quel est votre premier souvenir de radio en tant qu'auditeur ? Quelque chose qui vous aurait marqué ?
Je crois que c'est la radio que faisait mon frère avec ses amis dans les buissons de Sevran, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans avant que mes parents déménagent en Vendée, ce qui fut un choc culturel. Et mon frère, avec ses potes, faisait de la radio, mais de la radio sans émetteur, au sens où il enregistrait sur des cassettes sur un poste des choses qu'il appelait émission de radio. Et ça m'avait épaté comme Ça le mettait aussi dans une espèce de rapport avec ses amis qui était différent. Enfin, je sentais bien que ce détour par l'enregistrement faisait qu'on se disait autre chose, quoi. Et donc ça m'a spécialement intéressé. Puis avec mes parents, on avait joué aussi à faire de la radio une fois, quand j'avais peut-être 8-9 ans. Et après, ça m'avait travaillé cette histoire-là, quoi. Et donc après, j'ai voulu en faire. Et quand on s'est retrouvé en Vendée, il y avait une radio associative où je suis allé. Et après, mes souvenirs de radio, de grande radio, c'est que j'ai un cousin qui écoutait beaucoup, beaucoup Énergie. Mais à l'époque où Énergie, dans les fins des années 80, était encore dans l'esprit des radios libres, même s'il y avait de la pub, même si ils avaient commencé à devenir une radio commerciale, il y avait un esprit radio libre qui était là. Et je me souviens d'émissions avec des petits sketchs entre deux hits et tout ça, où j'écoutais ça. Puis après, j'écoutais des libres antennes de Maurice. Et seulement après, j'ai commencé à écouter Radio France et France Inter au début, la création radiophonique sur France Culture après, mais finalement plus tard. Ouais.
Quelle était votre première émotion musicale, votre premier choc esthétique ?
J'ai un rapport ambivalent avec l'idée de choc esthétique, parce que je crois que j'ai eu un rapport assez tôt, finalement réflexif, avec la musique.
En tout cas, la première fois que vous avez entendu de la musique, et il s'est passé quelque chose d'important.
Je crois que c'est peut-être en jouant, moi-même, la clarinette. Et effectivement, quand j'ai commencé à aborder le concerto de Mozart, il se passait des choses effectivement qui faisaient un petit peu décoller, quoi. Et puis, certaines chansons aussi. Ouais. Ma grand-mère écoutait beaucoup Bertrand Silva, les Roses Blanches, qui était devenue une espèce de fétiche pour moi. Et puis j'avais été voir un Carnaval aux Caraïbes, qui était une sorte d'opérette avec Georges Guettari. Tout ça, c'est des choses qui m'avaient pas mal travaillé. Enfin, je chantais volontiers. Voilà.
Alors après, vous avez fait donc de la musique au conservatoire
ou en école de musique. J'ai jamais été dans des lieux très académiques pour faire de la musique. Et puis j'ai jamais cherché à intégrer un conservatoire véritablement parce que j'ai assez vite développé des pratiques de la musique alliées à la musique et donc un peu loin des, disons, des circuits de reconnaissance organisés par l'institution pour les musiciens en devenir professionnels. J'ai jamais été là-dedans. Ouais.
Vous avez fait des grandes études en sciences sociales, vous avez fait une thèse sur Eric Satie.
Ouais, suite à une bifurcation, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire de la philo à Nantes, jusqu'à faire un mémoire de maîtrise sur Foucault, qui a complètement divisé mon jury, au point qu'il y en a un des deux qui a tout fait pour que j'ai une mauvaise note, que j'ai eue, et qui m'a empêché de continuer à faire de la philo. En quelque sorte, je ne pouvais pas faire de DEA, à l'époque c'était un DEA. Et donc j'ai pu faire, grâce à une bifurcation, vers la musicologie et vers le HESS, effectivement, où là j'ai fait un doctorat et même récemment une HDR.
Alors, vous avez donc une grande expérience d'homme de radio, puisqu'on vient d'évoquer les 7 ans d'existence de votre émission Métaclassique. Donc, vous l'avez précisé, hein, c'est la musique classique, mais aussi tout ce qu'il y a autour, avant, après, pendant, enfin, avec tout ce qu'on peut connaître, savoir, envisager autour de la musique classique. Et chaque année sont édités, en fait, des entretiens de vos émissions. Et là, c'est déjà le 3e volume, c'est pour ça qu'on vous reçoit.
Ouais, c'est une initiative qu'on avait commencé avec les éditions Aedam Musicae, où on avait fait 2 volumes, un pour l'année 2019, l'un pour l'année 2020, puisque c'est vraiment comme, enfin, ce sont des annales. Et puis les éditions Aedam Musicae, hélas, comme beaucoup d'éditeurs de musique se sont arrêtés, les deux fondateurs sont partis en retraite, tout simplement. Et donc, Patrick Van Dieren m'a proposé qu'on reprenne ce projet. Et donc là, c'est les 6 premiers mois, on va essayer de le tenir à un rythme semestriel, les 6 premiers mois de l'année 2021 de l'émission.
Donc c'est très bien, on retrouve par écrit les entretiens, donc c'est précieux parce que c'est la radio des fois, quoi qu'avec les podcasts on garde quand même une trace, mais c'est un autre support. Vous croyez encore donc à l'écriture et à la lecture?
Oui, parce que je crois que c'est vraiment un autre rapport au dit, c'est-à-dire que non seulement l'entretien radiophonique est une autre façon de parler que dans la vie quotidienne, une autre façon de s'exprimer pour celles et ceux qui ont pu écrire des livres et que j'ai invités dans l'émission, et puis de republier leur dire, c'est aussi un endroit où on redéveloppe la pensée sous un autre jour, et de le lire, c'est une autre façon de l'entendre que d'écouter de l'émission de radio.
Et puis il y a un travail de réécriture, de toute façon.
Qui est fait avec les intervenants eux-mêmes.
Oui, oui. Et qui permet effectivement de donner une autre dimension. Une c'est
autre
encore, autant la, parole, fait, la parole du quotidien, la parole intersubjective a ses propres qualités, autant l'entretien radio développe aussi une autre façon de s'exprimer, et la transcription sur papier aussi change le rapport à la parole.
Oui, parce que ça change un peu le rapport au rythme, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas comme ça quand on ne fait que écrire, on ne parle pas comme ça quand on transcrirait de façon très réglée, mais en fait il y a un problème tout bête, c'est la ponctuation, où est-ce qu'on met les points, dire qu'on pourrait avoir tendance à en mettre un peu moins qu'il n'y en a potentiellement vraiment, donc c'est comme si en ajoutant des points, on ajoute aussi une ponctuation de la pensée, pas seulement de la parole, et donc il y a une façon d'asseoir certaines idées qui peuvent peut-être rester un peu flottantes quand elles sont juste énoncées devant un micro, et quand elles sont couchées sur le papier, elles n'ont pas la même rythmique, le même tempo, et donc de moduler le tempo de la pensée, ça en produit de la pensée, il me semble.
Alors le premier chapitre de ce volume 3 de Métaclassique s'intitule « Atterrir », et d'emblée est convoquée l'image célèbre des musiciens continuant à jouer sur le pont du Titanic, alors que celui-ci est en train de couler. Alors, qu'inspire cette scène aux musicologues et aux sociologues ?
Alors, ce n'est pas un musicologue qui est convoqué dans cette émission-ci.
Oui, mais vous êtes musicologue.
À moi.
Ah non, à l'invité.
À l'invité. C'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que pour Bruno Latour, qui était invité de cette émission, c'était une espèce de point de départ, justement, de ce livre « Où atterrir » qui était une sorte d'image dans laquelle pouvait se trouver tout simplement l'humanité. C'est-à-dire qu'elle est plus ou moins en train de couler ensevelie par un environnement qu'elle se rend de moins en moins vivable et dont elle s'asphyxie en quelque sorte par beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et il prenait effectivement l'espèce de faux optimisme ambiant ou de diversion de l'attention malgré cette catastrophe en cours. Justement, il la faisait porter à ces musiciens qui pouvaient se trouver sur le Titanic. Mais finalement, il mettait donc la musique dans une position qui pourrait plus ou moins nous endormir et plus ou moins faire baisser notre vigilance par rapport à ce qui nous arrive. Alors que Antoine Aignon, qui était le co-invité de cette émission, qui est un compagnon de route intellectuel de Bruno Latour et qui, lui, disait à propos de ces musiciens qu'il n'y avait pas à attendre qu'ils nous sauvent. Ils peuvent tout au plus accompagner le désastre et être un analgésant de passage, quoi. Moi, mon rapport à ces musiciens, quand je les revois dans le film de James Cameron, c'est quand même... Ils développent un rapport à la musique qui est complètement désespéré, mais qui semble avoir été lancé d'avance dans leur rapport à la musique. C'est comme si on avait contracté potentiellement avec la musique ce rapport d'être tenable jusqu'à la mort. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus ou moins peut-être le pacte que Beethoven passe quand il écrit le testament d'Heiligenstadt, quand il commence à sévèrement perdre l'audition et avoir un rapport de total désespoir et de total abandon à cette activité qui est faire de la musique, et qui inaugure le 19e siècle avec ce texte de 1802 qui devient et reste une espèce de point ultime de ce qui peut nous attacher à la musique. Et moi, je suis de fait ambivalent avec ça. C'est pour ça que je questionne tellement la musique et que j'en parle et fais parler autant, peut-être plus encore même que je n'en écoute, parce qu'il y a dans ce nœud qui nous lie avec la musique, qui est beaucoup questionné d'ailleurs dans ces entretiens-là, enfin dans ces 6 mois-là d'émission de 2021, quelque chose qui semble faire civilisation, mais aussi problème, enfin un problème peut-être irrésolu, oui.
Est-ce qu'il y a une attitude chez eux, pas de fierté, mais en tout cas d'honneur aussi, et une façon d'affirmer la musique jusqu'au bout, l'art jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre après tout? C'était pas des sauveteurs, ils n'avaient pas accès au canot de sauvetage, ils n'étaient pas là pour organiser l'évacuation. Et est-ce qu'il n'y a pas chez eux cette volonté de réaffirmer l'art en tant qu'ils s'identifient totalement à leur façon de vivre?
Oui, mais alors à ce moment-là, on pourrait pousser la question jusqu'à se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, à ce moment-là, changé de répertoire. Ils sont restés dans quelque chose d'un brin mondain, enfin, ils ne sont pas sortis de la fonction qui est assignée à la musique sur le Titanic que d'être une musique d'ambiance, quoi. Enfin, on aurait pu très bien se dire qu'à partir de là, en plus on est en 1912, enfin, y a un démembrement du langage musical qui aurait pu se produire. Enfin, ils auraient pu se mettre à improviser, à débrider leur jeu, et ainsi de suite. Peut-être qu'ils s'en sont pas senti les ressources ou la force, mais il y a quelque chose de encore plus terrible qu'à ce moment, ils soient restés à jouer ce qui n'était pas encore de la musique, mais presque quand même. Enfin, ouais.
Alors, on est ravis d'apprendre avec Bruno Latour et Antoine Aignon que le rock était en avance sur son temps et qu'il avait bien mieux su comprendre les enjeux de son époque, hein, bien mieux en tout cas que la musique dite savante ou classique, contemporaine. Ça vous évoque quoi, ça, quand il parle du rock qui a mieux saisi l'époque?
Que le rock prend de front les questions sociales et aussi peut-être une espèce de détresse existentielle de front, c'est-à-dire franchement là où la musique savante, selon moi, l'endosse, hein, cette espèce de drame, mais de façon toujours plus médiée, plus biaisée peut-être, aussi indirecte en tout cas, ou oblique. Donc je crois pas que le rock est plus ou moins politique que le répertoire savant, mais l'est de façon plus directe et frontale, je dirais plutôt ça comme ça. Et donc ça peut donner l'impression qu'il l'a fait avant, mais en fait je suis pas sûr. Il l'a fait plus explicitement, mais volontairement plus explicitement, et peut-être est-ce que, enfin je sais pas, mais des démarches de déconstruction de la gamme tonale et ainsi de suite, c'est des démarches qui prennent en charge des questions de civilisation, politique, mais de façon plus implicite, plus indirecte, plus oblique. Ouais.
Après, c'est pas seulement les propos du rock ou des chanteurs de rock, c'est aussi le son. C'est une certaine façon, un rapport à la distorsion, à la saturation. Moins que la dissonance. Effectivement, le rock n'a jamais été atonal. Très peu. Alors, sur l'écologie, est-ce que les musicologues ou les philosophes, les sociologues, peuvent décréter quel genre de musique on doit faire? C'est un peu ça qui ressort de l'entretien.
C'est aussi son impasse à cet entretien. C'est une impasse qui est d'ailleurs thématisée et explicitée en direct par Bruno Latour et Antoine Aignon. En fait, Chantal Latour, qui est donc l'épouse de Bruno Latour, qui avait permis à cet entretien de se faire, de nous réunir, m'a expliqué que quand ils sont repartis de l'émission, ils ont dit s'être trouvés très mauvais. Mais peut-être aussi parce que je les ai un petit peu enfermés dans effectivement cette espèce d'assignation à savoir quel répertoire deviendrait pertinent pour au moins représenter la crise climatique. Et effectivement, on n'a pas été en mesure de trouver ça. Et donc la stratégie quand même de Bruno Latour a été de prendre les scènes de cataclysme dans les opéras baroques. Mais aussi parce que dans les opéras baroques, on est dans un rapport un peu de frontalité avec ceux qui écoutent face à ceux qui produisent de la musique, et que c'est cette frontalité qui organise même la possibilité d'une représentation. Or, son œuvre est justement de montrer que notre rapport à l'environnement souffre précisément sans doute de cette frontalité-là, quoi. Donc ça fait qu'il n'y a pas de réponse à cette question, et que la question que la musicologie peut se poser par rapport à la crise climatique ne peut évidemment pas être de ressortir une playlist de fin du monde, mais de réinterroger qu'est-ce que c'est que notre rapport à l'expérience esthétique quand on est dans un monde qui bascule, quoi.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de David Christoffel qui nous parle de son émission Métaclassique et surtout de l'édition des Annales qui sont éditées. Rappelez-nous le nom de l'éditeur.
Vendirien Éditeur.
Voilà. Alors, on parlait d'écologie. Faut-il faire chanter Gaïa? Et si oui, quels seraient les maîtres chanteurs?
Maître chanteur, je l'entends toujours en deux sens, ouais. Au sens du chantage aussi.
C'est fait exprès.
Oui, c'est ça.
Tout
ouais, ouais. Alors, qui voudrait faire chantage? C'est-à-dire, qui pourrait vouloir qu'on chante à la place de la planète? C'est ça. Moi, c'est la question que je me pose notamment, et ça, c'est aussi une thématique qu'on aborde dans l'émission, vis-à-vis de toutes les démarches de field recording. C'est-à-dire, quand on tend le micro à la nature, alors, est-ce qu'on veut en faire entendre les droits? Est-ce qu'on veut en faire entendre, effectivement, le fait qu'elle voudrait respirer davantage? Mais est-ce que tendre un micro est véritablement la meilleure solution pour ce faire, on peut en douter, parce qu'il y a un effet d'extraction qui reprend le geste de l'extractivisme, qui est celui-là même qu'on voudrait retrousser, donc c'est quand même une posture méta paradoxale. Et alors l'idée même qu'on voudrait faire chantage, effectivement, ce serait de prendre, je sais pas, le son des glaciers en train de craquer, de le mettre sur un disque, à témoin de dire qu'on serait là dans une démarche vis-à-vis du sonore qui serait plus légitime que de faire sonner un orchestre, qui est sans doute une des pratiques les plus énergivores qui soient dans les pratiques musicales, quoi. Surtout quand en plus on fait prendre l'avion à 80 personnes pour aller donner deux soirs de concert à la Philharmonie de Paris en les faisant venir des États-Unis, quoi. Enfin, des choses incroyables, enfin. Moi, j'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a plus de pratiques musicales qui soient neutres du point de vue environnemental, et que plus elles sont réflexives par rapport à l'endroit où elles se mènent vis-à-vis de ça, plus elles redeviennent peut-être potentiellement intéressantes. Mais c'est rarement questionné du point de vue, par exemple, de l'énonciation. J'ai pas mal interpellé Isabelle Moindreau là-dessus, qui travaille sur opéra et environnement à Paris 8. Effectivement, on travaille beaucoup sur comment faire un opéra zéro carbone, ou bien thématiser aussi dans les ouvrages les enjeux écologiques. On a l'exemple de l'inondation de Francesco Filidei. Mais on le questionne pas du point de vue de la vocalité. Alors que la voix, elle se trouve potentiellement terriblement ébranlée de se retrouver devant une nature à laquelle elle n'a plus rien de pertinent finalement à adresser, quoi.
Alors longtemps la musique s'est adressée, on va parler de musique classique occidentale, hein, on va restreindre pour l'instant le registre. Longtemps la musique s'est adressée à Dieu, après elle s'est adressée à la nature, on peut dire la période romantique. Ensuite elle s'est adressée à la société. Alors à qui ou à quoi peut s'adresser la musique aujourd'hui?
Hélas, j'ai peur qu'elle s'adresse à ses bulles de filtre, quoi, c'est-à-dire juste à sa petite chambre d'écho égotique et à s'adresser à son feedback. C'est tellement pris dans une espèce de court-circuitage de l'adresse organisée par le fonctionnement techno-médiatique d'aujourd'hui que, à part s'adresser...
Vous voulez dire que chacun a sa playlist et n'en sort pas?
Ouais, il s'adresse à sa communauté, comme on dit. C'est-à-dire à ses followers potentiels. Ouais.
Est-ce qu'on en a fini avec l'universalité de la musique? Si tant est qu'elle existait un jour.
Bah, elle a existé comme auto-décret, à l'état de « je suis l'universalité ». Je pense que ça reste une espèce de, peut-être plus tant de point d'appui, mais de point de bascule, et que c'est à ce titre-là quand même s'il y a encore bien quelque chose de revendication d'universalité. Mais,
vous voulez dire que c'est la musique occidentale s'est décrétée musique universelle, sans demander l'avis des autres parties du monde? Parce que finalement, on a aussi des artistes qui sont devenus universels et qui venaient pas de l'Occident. On peut voir Kalsoum, Nusrat Fateh Ali Khan, Bob Marley, Cesia Evoria, conquérir la planète. Et ils ne représentaient pas du tout le monde occidental.
Mais alors, je ne sais pas si c'est en tant qu'occidental qu'elle s'est revendiquée universelle. Je ne sais pas de quelle musique on parle quand on parle d'une musique universelle. Est-elle nécessairement une musique occidentale? Ça, j'en suis pas sûr. Et du reste, on a très vite des représentants de ce qu'on appelle la musique occidentale, c'est-à-dire écrite, qui passe par le jeu de la partition, interprétée par des interprètes, et ainsi de suite, qui entre en dialogue avec d'autres manières de faire de la musique. Enfin... enfin, les contacts qu'il peut y avoir entre Shimra Arom qui essaye de décoder comment la musique centrafricaine fait fonctionner ses polyphonies, et puis un certain nombre de musiciens, les musiciens répétitifs qui vont s'intéresser à ça, aller à la rencontre de Shimra Arom. Enfin, je veux dire que l'ethnomusicologie s'est mise en dialogue avec des producteurs de musique, je pense à Ligeti par exemple, qui fait que, en fait, même l'idée même d'une universalité musicale telle qu'elle aurait été travaillée par les musiciens occidentaux, elle a été interculturelle presque d'office. Donc l'universalité, elle est peut-être à un autre endroit, elle est plutôt dans l'affirmation d'une musique instrumentale qui, détachée de tout verbe, de toute accroche sémantique, arrive à porter une expression qui pourrait en effet dépasser les différences de langue notamment. Et ça, je pense que c'est pas que le prérequis de la musique savante occidentale, et que quand c'est pratiqué par la musique savante occidentale, elle, c'est aussi en dialogue avec d'autres répertoires. Donc je ne suis pas sûr qu'on fasse un sort ou la souffrance de la hiérarchie des répertoires simplement en liquidant l'idée que la musique occidentale qui se vivrait comme celle qui dit qu'elle est la musique universelle aurait fait son temps. Parce qu'en fait, ça instruit un rapport à l'universalité qui est peut-être finalement caduque, plus que l'idée de musique universelle, enfin... Parce que finalement, peut-être que toute musique est universelle. Enfin,
si elle est vraiment musique, c'est a priori.
Ça. Oui, ou si on veut lui faire porter cette idée de la musique. Ouais.
Parce que si elle n'est pas universelle, si elle est juste le fruit, le produit d'une communauté, on pourrait appeler ça du folklore, par exemple. Ou réduire ça à du folklore.
Ou là où... Bah c'est, le réduire, c'est pas non plus réducteur qu'une musique soit folklore.
Non, mais ce qui est passionnant, c'est comment d'un coup, une musique qui est vraiment très localisée,
oui.
Comme en Jamaïque, ou comme au Cap-Vert, ou comme dans les régions d'Inde ou du Pakistan, tout d'un coup... touche le monde entier.
Oui.
Ou comme on pourrait même parler du rock, les Beatles qui arrivent, c'est le premier phénomène musical mondial, réellement mondial.
Mmh. Bah, c'est ce qu'on a évoqué dans l'émission globalisée, c'est-à-dire que le fait aussi que cette distribution à l'échelle planétaire de certaines musiques ne vont pas sans effet, soit sur elles-mêmes, soit sur les musiques qu'elles rencontrent. Et on a par exemple ce travail formidable, je crois que c'est Simon Reynolds qui avait travaillé sur la pratique de l'autotune par certains reggae africains, qui en fait font une pratique quasi transgressive de l'autotune, et qui permettent de révéler à quel point l'usage de l'autotune dans certains rap hyper commercial devient en fait hyper normalisant, tout normalisé. Mmh.
Alors, les musiciens sont-ils dans l'inconscience de leur pratique? Et est-ce que les philosophes ou les musicologues auraient la charge de leur révéler? Parce qu'à un moment, c'est évoqué dans Cléroné.
Oui, par Philippe
Beck. Voilà. Ouais. Les musiciens sont-ils vraiment dans l'inconscience de leur pratique?
Il se demande, il en a rencontré un certain nombre, en leur demandant si la musique est toujours le chant des sirènes. Si donc la musique était toujours rendue à ce pouvoir d'émerveillement qui finirait par endormir les consciences et dont les musiciens seraient à la fois les vecteurs et les victimes, puisque eux-mêmes pourraient se laisser endormir sur les enjeux de ce qu'ils colportent. Mais en fait, c'est une idée assez ancienne, elle est déjà un peu chez Platon. Cette idée, finalement, le vrai musikos, parce que c'était le mot employé par les Grecs, c'est peut-être celui qui est l'allié des muses. Et donc, ce serait peut-être plus le poète qui serait alors un poète déséparé de l'exercice de la philosophie, et qui serait le vrai musicien, en quelque sorte. Tandis que le musicien, au sens où on l'entend moderne, c'est-à-dire le musicien spécialisé dans la production du son, qui serait détaché de la conscience de ce qu'il fait à cause de l'exigence en virtuosité qu'on a fait peser sur lui, alors serait fatalement par suite aussi potentiellement inconscient des enjeux qui l'attachent aux muses. Donc il y a peut-être à réfléchir en fait sur l'articulation entre musique, poésie et philosophie, justement à l'orée de qu'est-ce que ça fait à la conscience que d'écouter de la musique ou de produire de la musique. Et si on restreint ça juste, comme on en a parfois pris l'habitude avec les sciences cognitives, à des effets strictement physiques, par exemple, est-ce que ça trace dans le cerveau et ainsi de suite, bah, on risque pas, en effet, de le rebrancher à des questions d'expression de ce que même nous-mêmes, on entend faire en faisant ce genre de choses.
Ça vous impliquez l'idée que la musique est ambivalente, elle peut aussi bien nous faire accéder à une forme de vérité, de beauté ou de bonté, pourquoi pas, et en même temps nous perdre, nous égarer et nous faire perdre de vue tout repère.
Oui, parce que la musique peut être violente. Ça, c'est une chose importante qu'apporte Philippe Beck et qui, en même temps, peut être facile à démontrer. Je veux dire que certaines très grandes œuvres, enfin réputées grandes, peuvent aussi être associées à des traumatismes. Je pense par exemple à Mes Nuits avec mon ennemi, avec le personnage de Julia Roberts qui est victime de viols conjugaux réguliers. Et à chaque fois, le mari tortionnaire met la symphonie fantastique de Berlioz juste avant de la violer. Donc après, elle ne peut plus entendre cette symphonie de Berlioz. Donc de ce point de vue-là, on ne pourra jamais plus dire que la symphonie fantastique de Berlioz fait de façon automatique le bien de l'humanité.
Oui, ça reste esthétique et non pas politique. Mais c'est pourtant, il me semble que vous n'avez jamais perdu ça de vue dans votre travail. L'esthétique a toujours des conséquences politiques, même si elles ne sont pas directes.
Absolument. Mais elles ne sont jamais neutres.
Voilà, c'est pas innocent de faire de la musique.
C'est pas innocent. On pourrait le vouloir, et il semble qu'on le veuille très très fort bien souvent, et que même on imagine des dispositifs de médiation, d'éducation artistique et culturelle qui sont précisément prises dans ce paradigme-là, mais ce serait quand même une candeur que de croire qu'il suffit de le dire pour que ce soit vrai et que ce soit effectif.
On va marquer une première pause musicale avec Castiglioni, et après vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce morceau. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de David Christoffel dans l'émission La vie est un roman. On vient d'entendre un morceau de Castiglioni. Pourquoi ce morceau, David ?
Alors ça renvoie à une émission que j'avais faite qui s'appelait Envelopper, non Contempler, parce que je les associe beaucoup ces deux-là, Contempler, parce que c'est vrai que quand on fait de la radio, j'allais dire un peu à l'ancienne, on a tendance à mettre l'émission de musique baroque à un endroit, et puis l'émission de musique contemporaine à un autre endroit, et puis l'émission de musique romantique, voilà, et à faire comme à la Sorbonne, c'est-à-dire à répartir les enseignements siècle par siècle. Et c'est quelque chose que j'aime bien tordre dans Métaclassique, justement avec cette entrée par verbe à l'infinitif. Ça permet d'angler les choses en permettant des rapprochements qui sont éminemment pertinents, alors qu'ils ne sont jamais faits si on laisse faire les catégories scolaires ou même les catégories des plateformes hein, qui fonctionnent par pays, ainsi de suite. Donc là, c'était de faire venir deux intervenants, l'un qui avait fait un livre sur Federico Mompou, le compositeur catalan. Donc l'auteur c'était Jérôme Bastianelli qui venait de faire une monographie sur Mompou et puis un autre, Laurent Fenérou qui venait de faire donc un livre justement à partir des écrits de Castiglioni. Et Castiglioni, je trouve qu'il a aussi un rapport à la pédagogie musicale très étonnant. Il prend des images pour parler de certains grands virages dans l'histoire des langages musicaux que je trouve formidables. Et par exemple, pour expliquer la différence entre l'attitude de l'auditeur face à du chant grégorien et face à de la musique tonale, il écrit « C'est comme quand à un arrêt que marque nombre de trams, on attend le tram 35. » Donc là, c'est vraiment l'auditeur de musique tonale. « De tous les trams qui arrivent, on observe seulement la signalisation pour voir le nombre qui est écrit dessus. » Et ça, c'est l'auditeur qui attend donc une tonique, auditeur de musique tonale. « Mais celui qui a pour hobby de passer son temps à regarder passer les trams n'a aucune raison d'observer la signalisation plus que les roues, les portes, les vitres ou le receveur. » Et là, apparemment, c'est plutôt l'auditeur de musique modale, en quelque sorte, qui va pas forcément finir sur la note du mode, mais sur potentiellement n'importe quel autre duo.
Oui, c'est une très belle image, très
c'est
parlante.
C'est une super image, quoi. Ouais. Et c'est surtout, en plus, une image qui est repointée sur l'écoute et non pas sur la forme en tant que forme. Donc, c'est aussi ramené au point de vue de la sensibilité.
Oui, et de sortir des catégories, surtout, dans lesquelles on tombe trop souvent, que ce soit en esthétique ou même en morale ou en politique ou en société.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que quand on entend une musique comme ça, il y a un certain nombre de réflexions conditionné même de certains gens de radio pour dire oh là là c'est de la musique difficile, mais ça veut rien dire, enfin ça veut rien dire, parce que si on rétablit la métaphore du rapport qu'on a au tram, si effectivement on va à l'arrêt de tram sans attendre un tram en particulier, bah, il se passe quelque chose qui est peut-être beaucoup plus proche de ce que l'on vient d'entendre que d'une chanson de musique tonale, quoi.
Mais ce qui effraie les radios que vous évoquez, c'est souvent le silence, et là dans cette œuvre il y a effectivement pas mal de silence.
Oui. Et de l'espacement entre les notes et entre les événements. Et d'apprendre à écouter cet espacement aussi.
C'est un autre rapport au rythme, un autre rapport au tempo.
Et un autre rapport même à la direction de ce qu'on écoute. Parce que la direction, si on arrive à la projeter, elle peut aussi englober la forme dans sa totalité. Et en effet, amener dans la lenteur une attention, un dépouillement qui ne sont pas possibles quand on est dans une espèce de virtuosité qui finalement empêche de voir la direction.
On parlait des musiciens qui avaient du mal parfois à décrire leur propre discipline, leur propre pratique. Quel est le rapport de la musique à l'incommunicable, d'après vous ?
Alors là aussi, c'est un thème qu'on évoque dans l'épisode Claironné avec Philippe Beck, qui a tendance à pointer le paradoxe que parler de l'incommunicable, c'est quand même vouloir le communiquer. Et donc, c'est créer un hors-champ du langage, mais depuis le langage. Donc, c'est un faux hors-champ. Enfin, c'est quand même une zone du langage, quand bien même le langage dit qu'elle n'y va pas. Donc, si on garde quand même du formaliste l'idée que l'inexprimable est quand même une construction c'est un projet expressif quand même, l'inexprimable. Donc c'est quand même un exprimable en creux. Si c'est pour dire que c'est très beau, c'est bien que ça veut exprimer quelque chose tout en disant que c'est inexprimable.
Mais la musique, est-ce qu'elle n'a pas cette particularité justement de pouvoir exprimer ce que les autres « arts » entre guillemets ne parviennent pas à dire?
Oui, Bah, c'est exactement là où se niche sa revendication d'universalité, il semblerait. C'est cet endroit-là, est-ce qu'il peut se cerner sous une énoncé comme inexprimable, incommunicable? En fait, pour moi, c'est en fait une invention littéraire. C'est cette idée-là, elle vient... par exemple, Victor Hugo parle d'inexprimable à propos de la musique romantique, et puis Debussy le revendique. Mais quand Debussy revendique l'inexprimable, on voit bien que c'est comme s'il fallait rembobiner le langage pour le faire revenir à un point originaire. Donc il y a quelque chose d'un peu orphique dans cette idée d'inexprimable. Alors j'ai rien contre l'idée d'un retour, de se mettre évidemment à la place d'Orphée, mais faudrait-il ne pas être dupe de ce qui lui arrive quand même.
Il perd la tête.
Mais c'est pas forcément bon signe de se retourner vers les origines du langage.
Donc la musique a aussi un rapport à l'indicible, à l'invisible. Quand on parle d'incommunicable ou d'inexprimable, il y a donc aussi donc l'indicible, par exemple Auschwitz ou Hiroshima. Les musiciens, longtemps certains auteurs en littérature, puisqu'on parlait d'évoquer la littérature, se sont refusés à écrire dessus après ces catastrophes. En revanche, les musiciens ont eu moins de scrupules et d'embarras. Il me semble.
Ont-ils eu moins d'embarras? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait,
ouais,
voilà.
Ils l'ont fait. Mais au prix d'un rapport au langage musical très radicalement bousculé, ouais. Non, je ne saurais pas forcément commenter ça, là, comme ça, parce que... Évidemment qu'on ne parle pas du même indicible quand on parle de l'atrocité de ces événements et quand on parle de ce que pourrait susurrer ou titiller le langage musical. Et donc renvoyer l'indicible de l'horreur nazie à l'indicible que la musique, parce qu'elle est dépouillée de signification, mais certainement pas de sens, pourrait toucher, c'est quand même très très touchy. Enfin, je pense que surtout... sans doute aporétique. Ouais.
Oui, c'est une question difficile, j'en conviens. C'était pas une question piège. Comment savoir si on n'est pas soi-même un philistin cultivé?
Oui.
On n'est pas toujours le philistin cultivé de quelqu'un, finalement.
Ah ben, on peut être pris pour philistin sans l'être tant que ça. Ça nous guette à tout moment. Surtout à la vitesse de production des réductions qui peuvent être celles du monde contemporain.
Parce que vous l'évoquez dans un des chapitres, là, vous pouvez nous dire alors c'est quoi ce philistin cultivé?
Ben le philistin, c'est celui qui fréquente les arts avec ardeur, mais une ardeur qui associe d'insincère qu'il en cherche quelques bénéfices sociaux. En effet, il y a beaucoup de mélomanes dans la distinction de Bourdieu qui tombent sous le coup du philistinisme. Et en effet, le romantisme, par exemple Schumann, était parti comme en guerre contre ce philistinisme, c'est-à-dire ce rapport finalement mondain à la musique. Alors, est-ce qu'on peut échapper à ça? Bah, effectivement, c'est d'autant plus compliqué quand on s'intéresse à des répertoires savants qui ont, semble-t-il, une force d'agrégation de philistins assez importante. Mais de là à dire que c'est impossible de ne pas l'être, ce serait quand même vraiment, vraiment triste. Mais...
Que des auditeurs soient snobs ou qu'il y en ait d'autres qui soient des moutons, est-ce que ça intéresse vraiment le musicien?
Ce serait
le compositeur.
Ouais, ce serait bien qu'il arrive à s'en foutre, mais je crois qu'il a du mal quand même. Moi, ceux que je fréquente, les compositeurs, ils sont plutôt embêtés avec ça. C'est-à-dire, ils sont quand même plutôt embêtés à la sortie de leur œuvre d'entendre des retours qui soient potentiellement à un endroit hypocrite, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est ça qu'induit le snobisme. D'écouter
comme
les
le œuvres
pour, c'est ça, pour l'importance qu'elles nous donnent plutôt que pour l'intérêt qu'elles représentent en elles-mêmes. Donc, c'est quand même un problème.
Oui, c'est la fameuse distinction que Bourdieu a formalisée dans les années 60-70. Pensez que les choses ont changé de ce point de vue-là? Est-ce qu'on va plus facilement à l'opéra? Est-ce qu'on écoute plus facilement de la musique classique ou savante?
Moi, je crois
que dans les années 70.
Ouais, beaucoup changé, c'est le rapport quand même à l'omnivorisme. C'est-à-dire que maintenant, le philistin est omnivore, alors qu'à l'époque, il ne l'était pas. Donc, il y a une potentielle, une promotion sociale à l'éclectisme qui fait qu'on peut même pas ne pas être éclectique. Enfin, il y a une espèce même d'injonction.
On est soupçonné de racisme. De...
C'est ça. On n'a pas le droit d'être puriste. Enfin, alors que même, on pourrait avoir de bonnes raisons de l'être. Enfin, on pourrait... Enfin, être obsédé d'un répertoire, je vois pas en quoi ce serait grave par nature, quoi. Enfin, mais par contre, ça passe pour une offense, un péché social, quoi. Ça passe pour une fermeture. Alors que ça pourrait être presque la preuve, justement, d'un non-philistinisme ou d'un non-snobisme que, justement, d'afficher une spécialisation.
Oui, parce qu'il faut en payer le prix de cette passion.
C'est ça. Bah oui. Et de la passion. Ouais. Donc.
C'est là qu'on fait la distinction, à un moment. Quelques-uns de vos interlocuteurs la font, entre mélomane et fan.
Oui, ça c'est Venceslas Lisée qui travaille sur cette notion-là. Ouais. Mais elle est quand même très extéro-conditionnée, comme dirait Sartre, de cette différence. C'est-à-dire qu'elle est, marquée par justement un horizon social de partage. Donc être fan, c'est aussi pouvoir faire club. Pouvoir se reconnaître dans d'autres fans et avoir un horizon de partage qui est d'ailleurs incité par les logiques communautaires. Ouais.
Vous pensez que le mélomane est seul chez lui alors que le fan a plein d'amis ?
Bah, peut-être que cette solitude du mélomane, elle est aussi travaillée par l'avènement de la phonographie. C'est-à-dire qu'avant la phonographie, on n'a pas pu se repasser en boucle un même titre seul dans sa chambre. Et que ça a ouvert un horizon d'écoute véritablement, justement, propice à parler d'inexprimable et tout ça. C'est presque un univers poétique, à prendre la musique comme un stimulant littéraire dans lequel on va exalter ce qu'il peut y avoir d'au-delà du langage que ne ferait toucher la musique. Et sans doute que la phonographie, le développement de la consommation de la musique par le disque a vraiment appuyé ça au début du XXe siècle. Je renvoie à l'émission récente, là, Fossilisée, avec Florence Heubrecht, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc oui, il y a sans doute aussi quelque chose de la donnée technologique de l'écoute musicale qui fait que le mélomane peut être tout seul dans sa chambre avec son tourne-disque, tandis que le fan, il est potentiellement à échanger sur WhatsApp avec d'autres fans. Ouais.
Et se retrouver au concert, et tenir un blog.
Ouais, exactement, et aller boire une bière avec les autres fans après le concert. Ah. Donc d'être dans un horizon de socialité qui travaille son statut de fan.
Est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule distinction au fond, hein, elle est économique. On pourrait parler du rapport du prix de la musique. Certaines musiques sont plus chères que d'autres.
Ah, ça c'est sûr.
Voilà, aller à l'opéra, c'est pas les mêmes prix qu'aller voir un concert de rock ou de rap. Parce que maintenant, les concerts de rock, de rap, je parle, sont entre 20 et 30 euros encore. Mm-hmm. Et les places d'opéra sont beaucoup plus chères. Et encore, ça dépend si on est face à l'orchestre ou si on est au balcon.
Mm-hmm.
Donc ces distinctions économiques, elles restent toujours opérantes.
Il y a quand même des politiques tarifaires qui font que à la Philharmonie de Paris, on peut quand même voir des spectacles pour des prix plus abordables, ce qui justifie quand même aussi des aides publiques et tout ça. Mais c'est vrai que c'est des thématiques sur lesquelles j'aventure pas tant que ça, métaclassique, les questions véritablement de politique culturelle qui seraient un petit peu macro. C'est-à-dire que les questions de politique culturelle, je les investis véritablement, mais du point de vue davantage de la réception, de ce que ça peut faire aux auditeurs, auditrices eux-mêmes. Et ouais.
Parce qu'après, il peut y avoir des mélomanes radins, il peut y avoir des passionnés qui économisent longtemps.
Oui.
ça existe aussi. Alors, aimer les avant-gardes, l'art contemporain et la musique atonale, fait-il nécessairement de nous quelqu'un de bien ou de désirable ?
Ah bah certainement pas, justement si c'est par snobisme intégral ou par même projet de domination, si on devait vouloir par ce vecteur-là consigner qu'il y aurait une culture de rupture qui serait en fait une haute culture par rapport aux autres qui serait donc ramenée à un statut de basse culture. Donc là, ça nous fait pas forcément être une belle personne que de revendiquer ces étiquettes-là, dans Loin s'en faut.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de David Christoffel et on va marquer une seconde pause musicale avec Benjamin Franklin. Thank you. vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de David Christoffel. Nous venons d'écouter un morceau de Benjamin Franklin. Pourquoi ce morceau, David ?
Alors parce que c'est Benjamin Franklin qui a inventé l'harmonica de verre qu'on entend en position soliste. Et donc ça veut dire qu'il crée cette pièce pour exhiber son instrument. Alors on en avait beaucoup parlé dans l'émission Mouillé, qui s'appelle Mouillé parce qu'il faut mouiller les doigts pour pouvoir jouer de cet instrument, avec Mélanie Traversier qui est historienne et qui avait fait un livre sur une certaine Mary-Ann Davis qui était une interprète qui s'était professionnalisée dans l'interprétation d'œuvres à l'harmonica de verre pour pouvoir faire démonstration sous l'impulsion directement de Benjamin Franklin. Et là on a un rapport entre science et musique d'ailleurs qui est assez révélateur de tout ce qu'on raconte sur la science aujourd'hui, et avec, par rapport juste à ce qu'on disait avant, l'idée que là on a un public qui est un public d'académie, c'est-à-dire il y a exactement 300 ans on a inventé la notion de concert telle qu'on la connaît aujourd'hui, justement dans un cadre qu'on appelle d'académie de musique, où on invitait des abonnés qui étaient, alors justement pas que des aristocrates, aussi des bourgeois, donc il y avait un début de démocratisation, qui payait un abonnement, d'ailleurs il y avait un nombre limité par la place des concerts le week-end, qui venait régulièrement dans l'année écouter des concerts, et tout ça a été pris dans une espèce de discours quand même vraiment des lumières, quoi, d'émancipation, où par conséquent le côté curiosité de découvrir un instrument inventé par Franklin, qu'on surnommait le Newton de l'électricité, faisait qu'on écoutait sa musique avec l'attrait de la démo scientifique. Et ça m'intéresse, comme à ce moment-là de l'histoire, on avait une espèce de collusion, comme on peut avoir un peu aujourd'hui pour ce que les algorithmes peuvent produire comme musique, avec une espèce d'effet waouh. Alors on s'autorise pas forcément à s'en émouvoir esthétiquement, mais on s'en laisse quand même fasciner par l'exploit technologique que ça peut représenter. Et ce frottement-là entre le côté épatant scientifiquement et le côté un peu émouvant esthétiquement, et le rapport contigu, même si c'est séparé entre les deux, me semble véritablement nourri historiquement par ces réflexions sur ce type de figure que Benjamin Franklin, soit un compositeur, en fait il l'est parce qu'il est un inventeur, et que être inventeur et compositeur à ce moment-là de l'histoire, c'est quand même très collé, quoi. Mais c'est aussi collé parce qu'il y a cette idée que les arts peuvent nous émanciper quasi à égalité des sciences, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours si clair, quoi. Mais il y a cette idée d'émancipation attachée à la musique, oui.
Alors l'IA, sujet inévitable, est-ce que vous avez écouté des œuvres produites par IA et vous en avez pensé quoi ? En tant que mélomane, entre guillemets, et en tant que musicologue et en tant que sociologue.
Dans un livre précédent, Les petits malins de la grande musique, j'avais consacré un chapitre aux musiques algorithmiques en essayant d'en faire l'histoire justement en repartant du XVIIIe siècle, parce qu'il y avait déjà l'idée de faire des grilles, des tables de probabilités qui permettent de produire en nombre astronomique des partitions, avec une espèce de stupéfaction devant le nombre astronomique plutôt que devant chacune des œuvres que ça peut produire. Et puis il y a eu l'épisode des années 50-60, c'est-à-dire les premières partitions produites par des ordinateurs qu'on jouait par exemple avec des quatuors à cordes. Et le fait qu'on prenne des quatuors à cordes me semble intéressant aussi, parce que ça voulait dire qu'on voulait inscrire cet acte technologique à l'intérieur d'une histoire qui est justement une espèce de sommet de la musique spéculative qui est le quatuor à cordes, et donc de la musique absolue dont on parlait en début d'émission. Alors ce que ça produit, ça peut produire aussi des choses tout à fait magnifiques et étonnantes. Enfin, je pense à l'œuvre Rundfunk, par exemple, de Peter Hudvösch, qui est partie du L-System, qui est une espèce de modèle d'accroissement des plantes qu'il a appliqué à la musique, et ça donne une musique qui ne regarde plus sa finalité, en quelque sorte. Alors, il y a plusieurs épisodes de Métaclassique qui ne sont pas forcément dans le volume des Annales 3.1 qu'on a consacré à ces questions. Je pense aux épisodes générer aussi un épisode avec Antoine Gabriel Brun, un jeune compositeur qui travaille beaucoup à développer des algorithmes. Et je suis quand même vraiment intéressé par ce débat, parce qu'il est quand même assez structurant, entre ceux qui produisent de la musique par algorithme et qui, quand ils ne sont pas contents du résultat, vont transformer l'algorithme. Et puis il y a les autres, ceux qui vont transformer le résultat. Et donc ça réactive dans les années 2020 exactement un débat qu'on avait déjà eu dans les années 1960, où dans le groupe musical de musique algorithmique, il y avait des gens comme Pierre Barbeau, qui était défenseur d'une ligne puriste, donc on ne change pas le résultat, mais on peut changer les algos. Et puis d'autres qui débordaient à retoucher les résultats, comme Xenakis, au point d'être pris pour un poète qu'il fallait tenir à distance du rythme du groupe de musique algorithmique. Donc je trouve que c'est quand même des débats de fait intéressants, parce que ça remet tout simplement au clair qu'est-ce qu'on attend des outils, qu'est-ce qu'on attend de la technique, qu'est-ce qu'on fait avec les instruments qu'on se donne. Et je pense qu'il n'y a quand même pas meilleur que ce genre d'outils, même pris à un niveau artisanal, pour lâcher prise avec ce qu'on peut faire avec la musique, et puis en effet après redébattre ce que ça donne, quoi. Mais par exemple, je pense à une œuvre comme Festin de Yann Maresch, où il prend pas le temps de prévenir les instrumentistes qui sont que des percussionnistes que son œuvre est produite par des algorithmes, parce qu'en même temps c'est tellement extraordinaire, tellement virtuose et éclatant à jouer et à entendre, que finalement la question du fait qu'il se soit servi d'algorithme pour certaines parties de la partition n'est pas bien grave et même pas bien intéressant finalement.
Merci beaucoup David Christoffel d'être venu pour nous parler des annales de métaclassique.
Merci.
J'espère qu'on vous recevra à nouveau pour le prochain
avec
numéro
plaisir
d'édition.
Ouais.
Je rappelle que nous fêtons bientôt les 45 ans d'indépendance de Radio Aligre. Si vous voulez soutenir, aider, défendre cette idée de liberté, d'indépendance, vous pouvez faire des dons. Vous allez sur le site, il y a un appel aux dons. Nous vous rappelons aussi que nous regrettons hélas l'absence de Yves Tinray, mais qu'on espère bientôt le revoir. J'aimerais beaucoup remercier aussi à la technique René qui est derrière la vitre et qui nous a fait un superbe travail. Merci encore à David Christoffel d'être venu et à bientôt.
À bientôt.
Pour notre part, on se retrouve dans 15 jours.
Aligre FM 93.1.